Chapitre 3. Richard n'aurait pu dire depuis combien de temps il se morfondait dans cette sombre geôle. On lui avait confisqué son sac et il avait cessé de percevoir le passage des heures et des jours. Sa vie quotidienne était immuable. Il dormait dans un angle de la pièce et lorsqu'il s'éveillait, d'une courte sieste ou d'un long somme, deux aviens lui apportaient une pastèque manne en guise de repas. Ils ouvraient pour cela la porte munie d'un verrou de l'extrémité du couloir, mais s'il allait dormir près de cette entrée, ils s'abstenaient de lui apporter à manger. Il avait rapidement assimilé la leçon. Parfois, deux de leurs congénères venaient nettoyer ses déchets corporels. Ses vêtements puaient, et il était d'une saleté impensable, mais il n'avait pu faire comprendre à ses geôliers qu'il souhaitait se laver. Il avait exulté quand les deux aviens s'étaient approchés pour regarder le dessin. Lorsqu'ils avaient voulu lui subtiliser l'ordinateur, il s'était contenté de programmer la répétition en boucle de l'image. Ils étaient repartis avec l'appareil pour revenir moins d'une heure plus tard accompagnés d'une énorme créature au corps gris et au cou orné de trois colliers rouges cerises. Ils l'avaient saisi dans leur serre et emporté sur l'autre rive. Après l'avoir déposé dans un désert, ils avaient longuement jacassé avant de le saisir à nouveau. Il en eut le souffle coupé. Cela lui rappelait un voyage en montgolfière qu'il avait fait autrefois dans le sud de la France. Les aviens grimpèrent jusqu'au sommet du cylindre brun sous la sphère lumineuse. Une demi-douzaine de leurs congénères les rejoignirent, puis les escortèrent dans les profondeurs du puits qui s'ouvrait au centre de la construction. Pendant une quinzaine d'heures, Richard fut conduit d'un groupe à l'autre. Il croyait que ses hôtes le présentaient à toute la population, dont il estima l'importance à environ 700 individus. Il fut ensuite enfermé dans une petite pièce où l'avien au triple collier et deux de ses semblables le surveillèrent jour et nuit pendant une semaine. Il le laissait se servir de son ordinateur et prendre ce que contenait son sac, mais à la fin de la période d'observation, ils lui confisquèrent tous ses biens et le transférèrent dans cette nouvelle prison. « Je dois moisir ici depuis un trimestre, à quelque chose près », se dit-il un jour. Il faisait une de ses deux marches quotidiennes, ses seuls exercices réguliers. Le corridor mesurait 200 mètres de l'entrée à la paroi du fond et il avait pris l'habitude d'effectuer 8 allers-retours lors de chaque séance. 3 mois pendant lesquels je n'ai pas reçu une seule visite de leur chef. Ce n'était donc pas une période d'observation, mais la version avienne d'un procès. Je me demande bien de quoi ils ont pu me juger coupable. Est-ce pour cela qu'ils m'ont enfermé dans cette cellule? Ses chaussures s'usaient et ses vêtements tombaient en lambeaux. La température était douce et il ne craignait pas de souffrir du froid, seule la perspective de se retrouver nu sous peu l'ennuyait. Ne manger que des pastèques manes devenait lassant, mais au moins ses fruits étaient-ils nourrissants. Le liquide qu'il contenait avait des propriétés désaltérantes et la pulpe une saveur agréable, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir envie de changer d'ordinaire. Dans une telle solitude, il risquait de perdre sa vivacité d'esprit. Il l'entretenait par des exercices de calcul mental. Depuis peu, conscient que l'âge émoussait sa mémoire, il reconstituait des épisodes et même des passages entiers de son existence. Il s'intéressait tout particulièrement à son odyssée dans Rama 2, pendant leur voyage de la Terre au point nodal. Le fait de manger la même nourriture qu'à l'époque levait une partie du voile de l'amnésie qui recouvrait son long séjour dans le nid des aviens. À la fin de ses repas, il se rappela une importante cérémonie, un feu qui brûlait à l'intérieur d'un étrange dôme, ses hôtes qui gémissaient à l'unisson. Richard en resta déconcerté, car il avait oublié dans quel contexte cela avait eu lieu. Quand s'est déroulée cette scène? Juste avant ma capture par les octopodes? Mais il lui suffisait d'essayer de se remémorer son séjour dans l'antre de ces autres créatures pour être assailli par une épouvantable migraine. Il effectuait une de ses marches quotidiennes quand il remarqua que la porte du couloir de sa prison était ouverte. « Ça y est, se dit-il, j'ai basculé dans la folie, j'ai des hallucinations. » Il se dirigea vers le seuil et fut surpris de pouvoir le franchir. Il toucha le battant au passage pour s'assurer qu'il était sain d'esprit. Il arriva à la hauteur d'une alcôve où une dizaine de pastèques-man étaient empilées sur des étagères. Ça y est, j'ai compris. Ils ont agrandi mon espace vital pour que je puisse venir me servir tout seul. Si seulement il y avait une salle de bain quelque part. Son vœu fut exaucé un peu plus loin. Il trouva un réduit avec de l'eau courante. Il but, se lava le visage et fut tenté de se baigner. Mais sa curiosité était plus forte que son désir de propreté. Il voulait découvrir l'étendue de son nouveau domaine. Le couloir rejoignait un passage perpendiculaire. Richard devait faire un choix. Il pensa qu'il se trouvait peut-être dans un labyrinthe destiné à tester ses capacités mentales et il retira sa chemise qu'il posa sur le sol avant de prendre sur sa droite. Comme le corridor précédent, celui-ci était éclairé par des plafonniers. Il avait parcouru une vingtaine de mètres lorsqu'il vit deux avions approcher dans le lointain. Quand ils ne furent plus qu'à quelques pas de lui, Richard s'arrêta. Les deux créatures lui adressèrent un gazouillis, puis le croisèrent sans plus lui prêter attention. Il rencontra ensuite un trio au comportement plus ou moins semblable. Que s'est-il produit ? Je ne suis plus leur prisonnier ? Dans la première pièce importante qu'il atteignit, quatre aviens assis en cercle se passaient une paire de baguettes polies tout en jacassant sans relâche. Plus loin, le couloir s'élargissait en une salle de réunion. Richard s'arrêta un peu avant, sur le seuil d'une alcôve où deux faucheux faisaient des flexions des pattes sur une table carrée. Richard dénombra une vingtaine de ces êtres dans l'autre pièce. Ils s'étaient regroupés autour d'une sorte d'autel sur lequel un parchemin avait été étalé. Une des créatures tenait une baguette dans ses serres et s'en servait pour désigner des passages de ce document. Il était recouvert de gribouillis incompréhensibles, mais Richard pensa, sans trop savoir pourquoi, qu'il devait s'agir d'une carte géographique. Quand il se rapprocha pour mieux voir, les aviens s'écartèrent pour lui faire de la place. Au cours de la conversation qui s'ensuivit, leurs attitudes lui laissèrent supposer qu'il venait de lui poser une question. Je perds vraiment la tête, finit-il par conclure. Je ne sais toujours pas pourquoi ils m'ont rendu la liberté, se dit-il, en s'asseyant dans sa chambre pour manger une pastèque-man. On avait apporté des modifications à son logement. Il disposait désormais de deux lanternes accrochées au mur et dormait sur un matelas bourré d'une matière qui faisait penser à de la paille. Il y avait même dans un angle un conteneur dont l'eau était renouvelée chaque jour. Quand les restrictions s'appliquant à sa liberté de mouvement avaient été levées, Richard s'était dit qu'il se produirait sous peu un événement important. Il ne se trompait guère, car le lendemain matin, deux jeunes aviens vinrent lui donner des leçons de langage. Ils commencèrent par désigner les pastèques-man, l'eau et leur élève en répétant lentement un son. Grâce à un effort de concentration intense, Richard apprit un vocabulaire important malgré ses difficultés à différencier des cris et des jacassements pour lui presque identiques. Cependant, il était dans l'incapacité d'émettre de tels sons. Il ne possédait pas les attributs physiques indispensables à leur prononciation correcte. Et il était déçu de ne rien avoir appris sur sa situation. Ses hôtes assuraient son éducation et l'autorisaient à se promener à sa guise. Il lui arrivait même de prendre à l'occasion des repas en leur compagnie, mais il ignorait toujours le but de tout cela. Les regards des chefs laissaient supposer qu'ils attendaient une réaction de sa part. Mais laquelle ? S'était-il demandé plus de 100 fois. Pour autant qu'il pouvait en juger, les aviens ne connaissaient pas l'écriture. Ils n'avaient vu aucun de lire ou écrire. Ils consultaient parfois leurs étranges cartes mais n'en dessinait pas, et il n'y portait jamais la moindre annotation. C'était un mystère. Tout comme les faucheux. Il en voyait assez souvent, et un jour, deux de ces créatures avaient séjourné plusieurs heures dans sa chambre, mais elles n'étaient pas restées immobiles un seul instant, et il n'avait pu les étudier. Une fois, lorsqu'il avait voulu en saisir une décharge électrique l'avait obligé à la lâcher aussitôt. Tout manquait de logique. Cela l'irritait, mais il refusait d'admettre que sa capture, puis sa libération, ne correspondait peut-être à rien de sensé. Il continuait de chercher des explications en analysant tout ce qu'avaient fait les Aviens depuis son intrusion dans leur domaine. Un seul secteur du cylindre lui était interdit, pour la simple raison qu'il n'aurait pu l'atteindre sans elle. Il voyait à l'occasion un ou deux Aviens descendre dans le grand puits vertical et disparaître au-dessous des niveaux habités. Un jour, une de ces créatures remonta des profondeurs en tenant délicatement deux nouveau-nés dans ses serres. Peu après, Richard désigna ses ténèbres et son accompagnateur secoua la tête. La plupart des créatures qu'il côtoyait avaient appris à interpréter et à reproduire ses gestes. « Mais il doit y avoir des informations quelque part. Des indices ont pu m'échapper, » se dit-il. Il décida de visiter tout le domaine des Aviens, non seulement le secteur d'habitation situé de l'autre côté du puits vertical, un lieu où il avait toujours l'impression d'être un intrus, mais aussi les grands entrepôts de Pastekman des niveaux inférieurs. « Je dessinerai un plan pour m'assurer que je n'ai rien oublié d'important. » Il découvrit ce qu'il avait jusqu'à présent omis, sitôt après avoir réalisé une projection tridimensionnelle de la tour. C'était pourtant évident. Que j'ai été stupide. Je n'ai pas exploré les 3/10 de ce cylindre. Il décida de montrer ces images à un des chefs aviens et de demander, sans savoir trop comment, à visiter le reste. Le moment était mal choisi. Une crise avait dû se déclencher, car dans tous les corridors il y avait des jacassements, des cris et des allées et venues. Une trentaine ou une quarantaine de grosses créatures s'envolèrent dans le grand puits vertical en formation serrée. Il réussit enfin à attirer l'attention d'un des géants à triple collier qui fut fasciné par les images géométriques de sa demeure visible sur l'écran. Mais Richard ne put faire passer son message, son désir de découvrir les autres niveaux de la tour. Le chef fit venir quelques-uns de ses semblables afin qu'ils assistent à la démonstration qui fut accompagnée de pépiments d'appréciation. Mais ils le renvoyèrent sitôt qu'un des leurs vint leur communiquer des informations sans doute très importantes. Richard regagna sa cellule, découragé. Il s'allongea et pensa à sa famille qui était restée dans le Nouvel Éden. « Le moment est peut-être venu de repartir, » conclut-il. Puis il se demanda comment il convenait de procéder pour prendre congé. Il était toujours couché quand il reçut de la visite. C'était la première fois qu'il voyait cet avien au cou orné de quatre colliers et au corps velouté noir de jais pointillé de taches blanches. Ses yeux étaient très clairs et l'homme eut l'impression qu'il traduisait une incommensurable tristesse. L'être attendit qu'il se fût levé pour s'adresser à lui très lentement. Richard ne comprit que quelques mots, mais il reconnut à plusieurs reprises le piaillement qui signifiait « Suivez-moi ». Trois créatures qui attendaient à l'extérieur de la pièce leur emboîtèrent le pas. Ils traversèrent l'unique pont qui enjambait le puits et entrèrent dans le secteur du cylindre où étaient stockés les Pastekman. Au fond des entrepôts, Richard remarqua pour la première fois des incisions dans la paroi. Lorsqu'ils n'en furent plus qu'à quelques mètres, un panneau glissa de côté pour révéler la cabine d'un monte-charge démesuré. Le grand chef lui fit signe d'y pénétrer. Quand il fut à l'intérieur, les membres de son escorte jacassèrent un « au revoir » puis effectuèrent une ronde et une courbette. Richard fit de son mieux pour reproduire le son d'adieu avant de s'incliner à son tour et de reculer dans l'ascenseur dont la porte se referma aussitôt.